sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Les t-shirts herbes, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est
la culture.
C'est pas. Allez-y
quoi.
Sortez.
Sortez. Sortez, c'est
les jambes.
Ok, vous voulez sortir.
Au chien bleu chez le veto.
Vous voulez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat. Sorti tous avec nous.
Sors !
Et bonjour tout le monde, bienvenue dans Sortez, la quotidienne socio-culturelle étudiante tourangelle sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Nous sommes le mardi 21 février 2023 et il est 16h. Bon, si vous avez suivi l'émission d'hier, vous savez déjà que je serai seule encore aujourd'hui. Et ça jusqu'à la fin de la semaine, car notre cher Antoine est absent pour affaires. Non, je rigole, il est juste parti une semaine à Berlin pour prendre du bon temps. Le petit chenapan. Mais cela ne veut pas dire que je vais vous laisser tomber, chers auditeurs et auditrices. En effet, pour ceux qui auraient loupé l'émission d'hier, j'ai préparé pour toute cette semaine une programmation sur le thème des questions queer. Donc cette programmation a débuté hier avec une émission diffusant un reportage du programme Univox réalisé par Thibaut, service civique à Radio Campus Clermont-Ferrand, en 2021. Alors certes, l'extrait n'est pas d'hier, mais les sujets abordés restent d'actualité. Ainsi, ce reportage a pour titre « Entre fête et solidarité dans la communauté queer ». Et si toi qui m'écoutes, tu n'as pas suivi l'émission d'hier, mais que tu souhaites la réécouter, tu peux aller checker le site internet de la radio, www.radiocampustour.com, dans la rubrique sortez, pour écouter l'émission en format podcast. Et donc, ça c'est ce qu'on a eu hier, mais maintenant, passons à ce que je vous ai réservé pour aujourd'hui. Pour celles et ceux qui le savent, cette année, le festival de cinéma Désir Désir fête ses 30 ans aujourd'hui. Et donc à cette occasion, un plateau radio a été organisé le 19 janvier dernier, réunissant Radio Campus Tours, Radio Béton et Radio Active. Et donc pendant cette émission de 4 heures, on défilait différents invités, dont la sociologue spécialisée dans la sociologie du droit de la famille et de la vie privée, Irène Théry, que j'ai eu la chance effectivement d'interviewer avec ma collègue Chloé de Radio Béton. Et donc dans cette interview, plusieurs sujets ont été abordés, comme les minorités persécutées, comme les personnes LGBTQIA+, dans les pays tels que la Russie, ou encore de la différence entre tolérance et intégration, donc des sujets qui collent parfaitement à ma semaine programmation sur les questions queer. Et donc je vous en dis pas plus car je vais vous laisser découvrir cette interview qui pour moi est la plus enrichissante que j'ai eue depuis que j'ai commencé mon service civique à Radio Campus. Et oui, mais avant de commencer l'interview, j'ai décidé de laisser la pause musicale qui avait été diffusée pendant le plateau radio pour vous mettre un peu dans l'ambiance. On se retrouve tout à l'heure dans Sortez.
Aline Unisex. Unisex de Christophe Willem. Je pensais pas entendre cette chanson aujourd'hui et voilà, c'est fait. Vous êtes
elle fait partie du top 10 des chansons qui sont listées pour la communauté gay et c'est pour celle-là que je l'ai choisie. Gay, enfin LGBTQIAP, queer.
Moi je dis queer, en fait. Voilà, c'est ça. Très bien. Et vous, donc, vous l'aurez compris, vous êtes sur, en direct du plateau Désir Désir, les 30 ans de Désir Désir avec Radio Active, Radio Campus, Radio Béton. Et nous accueillons avec un immense plaisir Irène Théry.
Bonsoir.
Bonsoir. Et c'est Audrey qui lance la première question.
Je prends le relais. Donc bonjour Irène Théry, bienvenue surtout sur le plateau radio qui réunit Radio Béton, Radio Campus et Radio Active, on l'a déjà dit.
Bonsoir.
Donc vous êtes ici en direct du cinéma studio de Tours dans le cadre du festival Désir Désir et plus particulièrement pour votre participation au ciné-débat qui est ce soir donc au cinéma studio à 20h pour le ciné-débat Me Too, où en sommes-nous ? Donc pour présenter un peu la soirée, c'est un ciné-débat qui se construira autour de deux documentaires. Donc on aura d'abord le film documentaire préliminaire réalisé par Julie Talon qui sera d'ailleurs présenté avec vous ce soir.
Alors si non, je corrige, je suis désolé, je vous l'annonce en direct. Malheureusement, la grève aura eu raison de Julie Talon et son emploi du temps surchargé aussi, mais surtout la grève, en fait, son train a été annulé. Et non, donc, non. Malheureusement, Julie ne sera pas là, mais on projette quand même son court-métrage.
Hein. Bah, du coup, ce court-métrage donc, documentaire datant de 2019, hein, d'une cinquantaine de minutes, montrant les témoignages de jeunes âgés de 12 à 23 ans sur leur première expérience sexuelle. Et par la suite sera diffusé le reportage « 5 ans après MeToo, les femmes sont-elles mieux protégées ?» de Aliénor Carrière, Johanna Siegel, Fanny Lépine et Rebecca Donoher. Et donc la question et le thème majeur de cette soirée, on peut la retrouver dans le programme du festival. Donc je cite « Le mouvement MeToo a largement libéré la parole sur les violences sexuelles et sexistes dans les milieux de la culture ou encore de la politique. Le silence qui a longtemps été la norme pose désormais la question de l'éducation des nouvelles générations à l'ère des réseaux sociaux. » Quel bilan peut-on tirer de MeToo après 5 ans ? La justice a-t-elle accompagné la libération de la parole ? Vers quelle société souhaitons-nous nous diriger ? Et donc c'est là que je me tourne vers vous, Irène Théry. Déjà pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, donc vous êtes une sociologue qui travaille généralement sur les transformations contemporaines de la famille et sur les rapports de genre. Je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Donc vous avez notamment introduit le terme de « famille recomposée ». Et donc de plus, parce qu'on ne vous arrête pas là, vous êtes également l'héroïne du documentaire « La sociologue et l'ourson » sorti en 2016. Et pour finir, vous avez publié de nombreux ouvrages dont « Mariage et filiation pour tous »,« Une métamorphose inachevée » en 2016, et « Moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle » en 2022. Et donc ajouter aussi de multiples décorations grâce à vos travaux. Donc on tire tous notre chapeau, je pense. Et donc pour revenir au ciné-débat, est-ce que vous, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pouvez déjà nous donner des éléments de réponse sur la question qui animera cette soirée ? Quel bilan peut-on tirer de MeToo après 5 ans ?
Alors après 5 ans, je pense qu'il y a tout un aspect qui a énormément progressé. C'est la conscience qu'il y avait, avant MeToo, un véritable continent caché de violences sexuelles qui allait du harcèlement jusqu'au viol et à l'inceste. Et bien que les mouvements féministes aient commencé à alerter sur ces sujets dès les années 70, hein, il ne faut pas opposer le féminisme d'aujourd'hui au féminisme d'hier, celui d'hier qui aurait été gentil et celui d'aujourd'hui qui serait un néo-féminisme agressif. Bon, y a une continuité, mais effectivement, y a quelque chose de nouveau s'est passé avec MeToo et qui a libéré l'écoute, comme on dit, au moins autant que la parole, et donc fait apercevoir que ça soit... dans les milieux de la culture dont vous avez parlé, de la politique, mais aussi dans les entreprises, mais aussi de la part des moniteurs de sport, mais etc., dans les cuisines des grands restaurants, enfin partout, il y avait ce continent caché de violences sexuelles qui a été mis au jour par un phénomène quand même assez nouveau, c'est-à-dire ce « moi aussi », c'est-à-dire des milliers et des milliers et des milliers de personnes, souvent des femmes, mais pas seulement des femmes, des hommes aussi, il y a un MeToo gay, il faut le rappeler, et puis des enfants ou d'anciens enfants devenus adultes qui ont pris la parole pour témoigner en première personne et en enchaînant en quelque sorte tous ces témoignages individuels, changer la vision qu'on avait de l'état social en fait. Donc ça c'est 5 ans après, je pense, un très grand apport de MeToo. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi... loin de là, à faire évoluer tout ce qu'on voudrait évoluer, en particulier sur la punition de ces crimes et délits. Mais ce que je voudrais dire tout de suite, c'est qu'il y a un autre aspect de MeToo qui est beaucoup moins connu. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que ce festival ait publié le, ait programmé le film de Julie Talon. C'est que, si vous voulez, il y a deux grands mots d'ordre à MeToo. Il y en a un qui est connu de tout le monde maintenant, c'est la honte doit changer de camp, qui concerne donc les crimes, les délits sexuels. Mmh. Et puis, il y a un autre mot d'ordre, qu'on a surtout vu aux États-Unis, quand les militantes ont pris des t-shirts sur lesquels elles ont barré « Protégez vos filles », qui était l'évidence d'autrefois, mmh. et qu'elles l'ont remplacé par « Éduquez vos garçons », elles appellent là, non pas à quelque chose qui concerne les crimes ou les délits, mais on va dire la civilité ordinaire, les manières ordinaires d'agir, que ce soit en relation hétérosexuelle ou homosexuelle. Et là, effectivement, préliminaire, c'est un film qui montre qu'on est encore très loin d'avoir établi cette nouvelle civilité. Il y a des formes de violence assez grandes, y compris entre mineurs, et donc on pourra en parler après le film.
Très bien. Et tu as une question?
Non, peut-être, non, oui, okay.
Pour venir justement au festival, comment s'est faite, Anthony, tu peux aussi répondre, comment s'est faite cette collaboration du coup pour le festival, pour cette semaine?
Comment je connais ce festival?
Et puis comment et pourquoi vous avez participé?
Ben, j'ai participé parce que j'ai été invitée ici, parce que j'ai été l'héroïne involontaire, je dois le dire, du film « La sociologue et l'ourson ». Mon fils Mathias et son compagnon, pas son compagnon affectif, mais son comparse de cinéma, Étienne Chailloux, m'avait suivi pendant toute l'année de débat préparatoire au mariage pour tous, sans me dire qu'il m'enregistrait en privé, par exemple le dimanche soir quand j'étais au lit, des choses comme ça. Et ils voulaient faire quelque chose qui soit à la jonction entre le débat public, ma participation au débat public, médiatique, de défense évidemment de l'institution d'un mariage pour tous, et aussi les débats qu'il pouvait y avoir, y compris dans ma famille, non seulement sur le mariage, mais aussi sur la procréation médicalement assistée, mais aussi sur la gestation pour autrui, y compris des sujets qui sont encore devant nous. Voilà, et donc c'est, je crois, en tant que maman ours et sociologue engagée que j'avais été invitée.
Oui, ce que je peux rajouter, c'est que, et vous le savez très bien, l'un de nos fils rouges au festival, c'est pour traiter des sujets, d'inviter des références sur les sujets. La question pour nous de faire intervenir des universitaires à qui on demande de venir expliquer les choses et de les vulgariser pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, mais en même temps qu'ils gardent cet aspect très précis des choses, parce que ce sont des universitaires et qu'ils maîtrisent de façon très pointue leur sujet, pour nous c'est primordial. Et une soirée comme celle-ci, pour nous, quand on a commencé à travailler dessus, il y avait bien évidemment plusieurs invités possibles en tant que réalisateurs, réalisatrices qui ont produit des choses, mais sur la question sociologique, on avait gardé toujours en tête l'intervention d'Irène Théry dans ce documentaire. Et on s'était dit un jour, on va forcément retrouver Irène Théry sur des sujets. Et cinq ans après, lorsque on a commencé à préparer les 30 ans et que la question de MeToo est arrivée, naturellement, comme on avait gardé le contact de Mme Théry, on s'est dit, on va la contacter. On savait que son livre était en préparation, qu'il allait sortir. On s'est un peu dit, ça va être compliqué, elle va plutôt être sur son livre. Voilà. Et on a la chance qu'elle ait accepté d'intervenir. Et grâce à son investissement, parce qu'il faut le dire, du coup, c'est parce que Mme Théry a réfléchi avec nous, qu'elle nous a proposé ce documentaire, etc., qu'on a pu, que ça nous a facilité aussi à nous le travail. Donc on est ravis de vous avoir avec nous, parce qu'on sait que le public ce soir aura matière à réflexion sur ce sujet-là.
Les échanges sont souvent très riches au CNP. Enfin, c'est le Cinéma National Populaire. C'est une autre association qui fait un peu partie des studios. Enfin, qui fait partie des studios.
Voilà, il faut saluer ce partenariat historique avec
et
nous.
Et ils organisent toujours des débats avec des spécialistes et il y a des échanges avec le public qui sont intenses.
Vous avez publié un édito que l'on peut retrouver à la cinquième page du programme du Festival Désir Désir. Donc, j'ai décidé, entre autres, de construire la suite de l'interview à partir des passages présents dans votre édito.
Je découvre le programme.
Non, moi-même.
Pour essayer de comprendre les questions qu'anime le festival. Donc, je vais prendre une première citation que je trouvais importante. Donc, vous dites, au tout début d'ailleurs, donc le 24 février dernier, quand Poutine déclenche la guerre, il le dit, Par-delà l'Ukraine, il vise plus large, la décadence morale de l'Occident, et il précise ce qui pour lui est le cœur de cette décadence, les défilés de fierté LGBTQIA+, qui, chaque année, répandent leurs couleurs dans les capitales européennes. L'accusation ne vise pas seulement des minorités persécutées, elle vise nos mœurs démocratiques et notre loi commune. Et donc, du coup, suite à ça, de quoi relève cette différence de pensée en termes d'acceptation des minorités, comme vous parlez dans cet extrait, donc, c'est-à-dire entre les pays occidentaux comme la France et les pays plus réfractaires, entre guillemets, comme la Russie?
En fait, il y a une histoire qui est très longue d'un cheminement vers l'égalité des sexes et des sexualités. Mm-hmm. C'est une histoire très longue. Il ne faut pas s'imaginer que ça a démarré ne serait-ce qu'il y a même 50 ans. Plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a une histoire qui démarre dès la Révolution française, en fait. Le féminisme progresse et plus on le connaît, plus on s'aperçoit que sur tous les sujets, y compris les sujets concernant l'homosexualité, il y a eu une réflexion très ancienne. Donc ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que, d'un point de vue historique, le passage, si vous voulez, de moi, ce que j'ai connu quand j'étais jeune, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la sortie du placard, les années 70... le mariage pour tous, qui est vraiment l'institution l'homosexualité entre au cœur des institutions les plus importantes de la société. Mmh. Donc on a l'impression que ça se fait vraiment en quelques années. À l'échelle historique, c'est trois fois rien, mais c'est parce qu'il y a tout un long cheminement qui a amené à ça et qui peut nous donner aujourd'hui l'illusion que c'est acquis assez définitif. Et parce que c'est vrai que, par exemple, quand a commencé le débat sur mariage pour tous, il y avait déjà 65% des Français qui étaient pour. Et on l'a un peu oublié parce qu'il y a eu après les manifestations, la manif pour tous, etc., qui a occupé les médias. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention à des contre-révolutions possibles. Il y a des gens qui détestent ce que nous avons fait, qui considèrent que c'est qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Enfin, c'est toujours le même débat. Hein. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tout est mélangé. Il n'y a plus de nature, il n'y a plus de biologie. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, je retrouve avec inquiétude sur la question des trans aujourd'hui, vraiment exactement les coordonnées du débat qu'on a eu il y a 15 ans autour de la question de l'homosexualité. Et donc, ces pays-là, alors très divers, parce que là, j'ai cité Poutine parce que c'était clairement une des raisons de sa haine. Mmh. J'ai dirigé une thèse sur la persécution des personnes LGBT à Saint-Pétersbourg. C'était vraiment, déjà il y a quelques années, terrible. Et donc, avec des différences d'ailleurs dans la façon dont étaient persécutés les gays et les lesbiennes. Et aujourd'hui, c'est pire encore. Ils inscrivent le refus de l'homosexualité dans la Constitution.
Bien sûr.
Bon. Et alors, ça, c'est un aspect, mais il y a aussi tous les pays religieux intégristes. Regardez ce qui se passe en Iran. Mmh. On jette les homosexuels du haut des tours, on les pend, etc. Donc, vraiment, ne croyons pas qu'on a fini. Il faudra se battre encore longtemps et il faut rester mobilisé. Donc, le festival ici est important parce que, justement, on ne peut pas se reposer sur l'idée que maintenant, c'est fait. Mmh. Il faut consolider toujours ce qui a été le changement qui concerne à la fois, c'est ce que j'ai dit, tout un ensemble de minorités représentées par les LGBTQIA+, etc., mais aussi l'ensemble de nous tous, quel que soit notre sexe, notre genre, notre orientation sexuelle. On a changé de façon de penser les choses et il faut le renforcer.
On l'a vu aussi récemment avec tous les pays qu'on ne pensait pas qu'ils pourraient revenir sur la question de l'avortement.
Exactement, oui, les États-Unis.
Espagne, aux États-Unis. Heureusement, il y a eu des revirements, mais dans certains
oui,
pays.
Mais enfin, mais si on avait un changement de majorité politique en France, regardez ce qui se passe dans certains pays comme la Hongrie, etc. Non, en Europe aussi, il y a des menaces. Sur l'Italie.
Est-ce que, justement, je dérive peut-être un peu politiquement, mais est-ce que, justement, l'Europe, qui a pendant quand même longtemps été apparue comme le défenseur de ces questions-là avant même certains États, et donc qui a forcé certains États qui ont voulu rentrer dans l'Union européenne à faire évoluer leur législation. Est-ce que cette Europe-là, vous pensez qu'elle est toujours en force et capacité d'aider? On évoquait la Hongrie, là. Ou est-ce qu'il y a aussi un relâchement du côté de l'Europe qui pense que, un peu à tort, peut-être comme dans nos communautés, aujourd'hui c'est fait, donc c'est bon?
Non, je pense qu'en Europe, que l'Europe et les institutions européennes restent un point d'appui essentiel. et en particulier, par exemple, sur des questions qui ne sont pas encore acquises en France. Hein. Je pense, par exemple, au traitement des enfants nés de GPA à l'étranger. Je pense à la question des trans, à la question des droits des trans à la parentalité, tout un ensemble de choses. C'est encore les institutions européennes qui nous donnent des leçons. Donc, pour le moment, il me semble que voilà, c'est plutôt les institutions européennes sont plutôt un point d'appui pour la lutte contre les discriminations.
Et du coup, j'avais aussi une question. Vous parliez des mœurs démocratiques, comme quoi elles étaient mises en question, entre guillemets, par Poutine, on parlait tout à l'heure. Est-ce que du coup, quand est-ce que l'intégration, entre guillemets, des personnes LGBTQIA+, est entrée dans nos mœurs démocratiques? Est-ce qu'il y a un point clé où c'est vraiment été, continue.
On bascule.
Ouais.
Il y a un changement continu,
oui.
Je pense, parce qu'il n'y a pas que le droit dans la vie. D'ailleurs, chacun de nous peut le vivre dans sa vie quotidienne. La vie, ce n'est pas simplement du droit. C'est aussi comment les gens se comportent au quotidien, comment les gens parlent. Ne serait-ce regarder tous ces débats qu'il y a aujourd'hui sur les façons de s'exprimer, sur le fait de ne pas toujours utiliser un masculin neutre quand on s'exprime, etc. Donc il y a beaucoup de... Moi, je pense qu'il y a une continuité, mais c'est vrai qu'il y a des moments de bascule. Et vraiment, le mariage pour tous, c'est un moment de bascule énorme. Je pense que c'est une chose, si vous voulez, d'avoir vécu... Moi qui me souviens de ça, je suis très loin de la plus âgée ici. D'abord, du temps où on se cachait. Hein. Vous avez vu hier ce magnifique film que j'ai vu aussi, Arrête avec tes mensonges, hein, qui montre bien comment, ce que c'était que la honte même, quelquefois, des jeunes gays dans les années 60-70. Hein. Ce qui a été... On se rendait pas compte même, quand on bagarrait pour le mariage pour tous, que ce qui allait changer, c'était pas seulement qu'il y aurait des droits égaux, c'est que... on rassemblerait dans les plus belles salles de nos mairies ses parents, ses amis pour vous célébrer. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on avait anticipé avant qu'on le voit. Et justement, à la fin de La Sociologue et l'Ourson, Mathias et Étienne avaient demandé à des personnes qui venaient de se marier d'envoyer des photos de leur mariage. Donc le film est fait avec des marionnettes et tout ça, mais c'est des vraies photos de vrais mariages qu'on voit à la fin. Et ils avaient mis ça sur le fond d'une Marseillaise assez douce, etc. Et c'est extraordinaire de voir ça. C'est-à-dire, on n'est plus dans la question des droits, on est dans la question de la célébration de l'amour. Et
de
ça,
ce qui
c'est quelque
exige.
Chose.
Moi, ce qui m'a frappé, je l'ai revu pour l'occasion, La Sociologue et l'Ourson, avec un grand plaisir. J'avais adoré ce film à sa sortie. Et c'est vrai qu'on est frappé par le fait qu'en fait, la loi, elle vient après. Elle reconnaît en fait l'existence de personnes, de façons de vivre qui sont déjà là en fait. C'est ça qui est presque surréaliste en fait dans la lutte pour ce genre de réforme.
Elle les reconnaît et en même temps elle donne une autre dimension.
Oui.
C'est vrai que c'est pas les gens s'aimaient autre. Moi j'ai eu la chance de faire le discours de mariage d'un ami qui est fondateur de l'association des familles homoparentales. Et ils s'aimaient, je veux dire, avant de se marier autant que le jour de leur mariage. N'empêche qu'à un moment, c'est la société tout entière qui vous célèbre. C'est autre chose. Il y a une dimension différente qui est donnée. Et c'est la société qui s'est engagée. Oui. S'il y a des gens qui imagineraient de reculer, par exemple, il faudrait voir que ce n'est pas simplement un tel ou un tel, c'est toutes nos institutions qu'il faudrait mettre en cause.
C'est la différence entre la tolérance et l'institutionnalisation
d'une
pratique.
Voilà, c'est ça, exactement. Au début, on parlait de tolérance. Même moi, j'ai eu un prix d'ailleurs qui s'appelle Tolerantia pour mon action au moment du mariage pour tous. Et en fait, maintenant, je m'aperçois vraiment clairement que la tolérance, c'est
dangereux.
C'est pas extraordinaire, voilà. C'est l'égalité qui est la bonne chose. C'est pas la tolérance, oui, c'est sûr.
Et du coup, comment vous différenciez la tolérance à l'intégration, justement? Qu'est-ce qui différencie entre les deux?
Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'un peu... désagréable dans la tolérance. Alors, c'est compliqué parce qu'en même temps, il y a aussi toute une histoire philosophique de la tolérance qui veut dire simplement accepter celui qui n'est pas comme vous. Accepter de ne pas tout rapporter à vous-même. Et de ce point de vue-là, dans l'histoire de la tolérance, par exemple, religieuse, il y a l'idée qu'un universalisme bien compris doit être un universalisme inclusif et qui va donc accepter de ne pas tout ramener au même modèle. Donc de ce point de vue-là, on peut voir un certain intérêt à tolérance, c'est reconnaissez ce qui n'est pas vous-même. Mmh. Et ça, c'est pas mal. Mais ce qui est encore mieux, c'est l'inclusion, je dirais. Ça c'est un mot qui, autrefois, n'existait pas. Et ça me rappelle d'ailleurs l'évolution même de ce festival. Autrefois, il y avait vraiment l'idée... Il y a une culture alternative, il y a des communautés alternatives, et des minorités, il faut qu'elles puissent s'exprimer, etc. Mmh. Ça, c'était déjà très bien. Mais c'est vrai qu'on a pu être un peu étonnés au début. Je me souviens des premières manifestations de Pride dans lesquelles il y avait, par exemple, le petit train des enfants de l'association des parents gays et lesbiens. Et il y avait quand même des gens qui disaient mais qu'est-ce qu'ils veulent avec leur famille, quoi ? Est-ce qu'ils veulent rentrer dans le rang ? Est-ce qu'ils veulent, ils veulent singer les hétéros ? Enfin bon. Oui, il a fallu tout un travail pour apercevoir qu'entre une sorte de contre-culture qui est tout à fait légitime et l'intégration, il n'y a pas à choisir. Mm-hmm. On peut vouloir tout ça à la fois.
Mm-hmm. Alors, peut-être pour revenir sur MeToo, justement, s'il y a bien un sujet sur lequel on ne peut pas faire preuve de tolérance, c'est sur les auteurs d'agressions sexuelles. Peut-être qu'on peut évoquer ce soir le documentaire. Peut-être que tu as préparé une question sur...
Non.
moi, si. Le documentaire, je l'ai vu aussi, du coup, parce qu'il est en accès. C'est un documentaire Arte,
oui.
Qui est vraiment très bien fait. Ça pose vraiment le contexte de ce que c'est. On est tous passés par là, au collège, vraiment au collège. Comment on construit sa sexualité dans le cadre de rôles genrés extrêmement violents. Parce qu'au début, ça commençait plutôt gentillet, où ils racontent leurs premières expériences en termes assez violents. Puis après, on tombe très vite dans les larmes, où il y a des expériences très malheureuses qui arrivent, parce qu'il y a des constructions, des idées d'une façon de se comporter, d'une espèce de sexualité sociale qui sont complètement faites d'a priori et de notions de genre qui n'ont... Enfin, moi, j'étais attristée. J'étais au collège il y a bientôt 20 ans et je me dis ça n'a pas vraiment changé, en fait, au fond, les questions de genre et la notion de consentement. Et c'est assez désespérant de voir tous ces jeunes se débattre encore aujourd'hui, parce que c'est un documentaire très récent, avec ces notions de consentement.
Oui, ça montre qu'il y a une dimension d'éducation qui est vraiment très importante à développer. Je pense que l'éducation, ça va passer par le fait que des associations, ce qui est un peu le cas, mais beaucoup moins qu'il ne le faudrait, interviennent dans l'éducation nationale, par exemple, pour venir susciter des discussions, mais aussi, justement, moi, je crois beaucoup à l'éducation par le cinéma, par les séries télévisées, etc.
Ils parlent beaucoup de réseaux sociaux.
Par exemple, les filles, elles commencent à dire que, justement, la façon dont ça se passe quelquefois au collège, elles ont accepté des choses qui ne leur convenaient pas, qu'elles n'avaient pas envie de faire. Donc, elles commencent à le dire. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas assez mis l'accent sur les violences entre les jeunes et en particulier entre les mineurs. Il y a eu une réforme très importante l'année dernière, 2021, qui a concerné principalement les enjeux de la pédocriminalité et de l'inceste, c'est-à-dire les rapports entre majeurs et mineurs, puisqu'aujourd'hui, depuis cette loi, tout rapport sexuel avec pénétration entre un mineur ou une mineure de 15 ans et un majeur qui a plus de 5 ans de plus est en tant que tel un viol. Donc on ne veut plus entendre parler des circonstances, etc. Mmh. C'est statutairement un viol. Donc c'est un pas important. Et en même temps, en mettant l'accent sur, on va dire, les méchants majeurs qui peuvent s'en prendre aux gentils mineurs, on a complètement laissé de côté la question qui inquiète le plus les professionnels aujourd'hui, qui est celle du développement de la violence entre mineurs. La moitié des viols sur mineurs sont le fait d'autres mineurs. Et donc, encore une fois, le cinéma est en avance et vous allez poser un sujet qui n'est pas encore dans la société, qu'on essaye de mettre en avant pour mettre en garde les jeunes et surtout donner du courage aux garçons ou aux filles qui sont les victimes de cela. On ne peut pas, évidemment, ne pas aujourd'hui penser à Lucas. C'est impossible de ne pas voir que dans un collège, on peut amener un jeune gay, tout jeune, au suicide. Enfin, c'est une chose terrible.
Je pense aussi qu'après, plus le temps passe, plus on commence à en parler. Mais c'est difficile, je pense, pour des très jeunes, d'en parler à des proches, même à leurs parents.
Bien sûr.
Et oui, c'est urgent ce que vous dites. Comment dire que les
c'est
les
pas
médias
facile
peuvent...
de parler de sa sexualité à ses
exactement
parents.
Et en même temps, au collège. Ça me fait penser au film Les Chatouilles de... J'ai perdu le nom de, cette de la réalisatrice qui dit qu'au contraire, il faudrait lever ce tabou de... Mm-hmm. De... Entre... Enfin, il faudrait pouvoir parler de sexualité avec ses parents parce que c'est les premiers adultes avec qui on peut avoir ce genre de discussion, en fait. Mm-hmm. Ça, c'est les plus proches. C'est encore plus dur d'aller vers une autre personne, une autre association ou... En tant que jeune, même tout petit, elle parle de parler de consentement dès le plus jeune âge, en fait, de pas dire aux enfants que leur corps leur appartient et qu'une personne adulte ou un autre enfant n'a pas à franchir cette limite. Et d'apprendre très tôt à dire non ou à dire peut-être, je ne sais pas, et que l'autre entende que ce non ou ce peut-être, je ne sais pas, ça veut dire ça ou autre chose, ça reste très compliqué la notion de consentement aujourd'hui.
Bien sûr, ça reste compliqué parce qu'on reste dans l'idée, en fait, très héritée d'un ancien ordre sexuel qui était à la fois, on va dire, phallocratique et justement hétéronormé, dans lequel il y avait l'évidence que la sexualité masculine, c'est une sexualité de prédation, c'est une sexualité de conquête, on va dire, mm-hmm, voire de prédation. Et la sexualité féminine, c'est une sexualité que j'appelle de citadelle, c'est-à-dire il faut être rare, il faut... Voilà. Il y avait cette formule, quand une femme dit non, ça veut dire peut-être. Quand elle dit peut-être, ça veut dire oui. Et quand elle dit oui, c'est pas une femme du monde. Ça, c'était une formule, vous voyez, bien, bien traditionnelle. Et cet ancien ordre-là, il n'a pas complètement disparu. Et c'est tout l'enjeu de MeToo, c'est ça. C'est de dire cette vision complètement asymétrique de la séduction... elle a amené en fait des personnes qui étaient l'objet de la convoitise d'une sexualité masculine de prédation, donc qui étaient souvent le plus souvent des filles, mais aussi des garçons. Regardez l'énorme scandale de l'Église. L'Église, c'est quand même des jeunes garçons qui, par dizaines de milliers, ont été les victimes de prêtres prédateurs qui les ont considérés comme des objets sexuels. Et qui, de ce point de vue-là, vous voyez, la question genre, elle est complexe. Elle peut... La question, c'est une certaine forme de sexualité masculine, évidemment, que tous les hommes n'ont jamais partagent pas, mais qui est... Voilà.
Bah, c'est toujours une question de domination. Après, on peut parler de transversalité aussi. Enfin, vous en avez parlé aussi dans certaines interviews que j'ai déjà écoutées, sur les questions de classe et de tout de suite. Enfin, les personnes dominées sont plus faciles. Les enfants, les femmes, les personnes racisées. Tout de suite, ça met des rapports de pouvoir qui sont extrêmement évidents et en même temps hyper complexes et pas forcément très
simples. Alors, sur la question sociale, pour moi, c'est vraiment un des problèmes... actuel de MeToo, c'est-à-dire on ne dit pas assez que nous vivons tous ces mêmes grands changements, mais nous ne sommes pas égaux face à eux. Et donc il y a eu deux affaires récemment qui l'ont montré, hélas, c'est l'affaire Shaina, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été soumise justement à une forme de relation très très phallocratique, mais banale au départ. Hein. Elle a un petit copain, il lui fait faire un nude, comme on dit, c'est-à-dire une photo un peu déshabillée, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il la fait circuler. Mm-hmm. Hein. Et après, elle se défend. Et on dit, mais c'est une fille facile. Elle va porter plainte. Il y a un viol collectif, etc. Ça s'enchaîne. Elle devient, entre guillemets, la pute de la cité. On lui fait une réputation. Pour le moins, elle n'est que victime. Mmh. Mais c'est à cette victime qu'on fait une réputation. Une fois qu'on l'a fait une réputation, on peut tout lui faire. Et ça finit quand même par un meurtre où cette fille, qui a trouvé finalement un petit ami quand elle a 15 ans, donc 2 ans après le début de tout ça, et qui, quand il s'avère que ça pourrait se savoir qu'il est le petit ami de, entre guillemets, la pute de la cité, l'assassine et brûle son corps. Enfin, on est vraiment dans une situation... C'est complètement hallucinant. Et ça montre quand même que la question des réputations, qui était le cœur, on va dire, de l'ordre sexuel traditionnel, il n'y a jamais eu de problème pour les hommes. Il n'y a pas de réputation. On ne fait pas une réputation à un homme. Et les filles, on leur a toutes fait des réputations. C'était où vous êtes, justement...
La prude
ou alors vous avez une réputation. Donc ces choses ne sont pas terminées. Et donc, il y a vraiment une solidarité beaucoup plus importante qu'il n'y a eu jusqu'à présent à l'égard des jeunes filles des milieux les plus populaires, les plus racisés, etc. Ça, c'est vraiment très important. Puis il y a eu récemment encore une autre affaire. C'est pour la 12e fois, je crois seulement, depuis la 1945, la justice a reconnu une erreur judiciaire. Et c'était une jeune fille qui avait accusé faussement un garçon. Alors, elle était plutôt d'une famille, disons, la bourgeoisie moyenne. Et lui, il était un arabe de la cité d'à côté. Et elle l'a accusé de viol, alors même que, en fait, elle subissait un viol de la part de son frère, à elle. Mmh. Et donc, par un mécanisme assez complexe d'un point de vue psychologique de protection de sa famille, elle a laissé ce garçon accusé pendant des années et des années, jusqu'au moment où elle s'est rétractée. Donc, ce n'est pas des questions faciles, tout ça. Hein. Il peut y avoir, effectivement, c'est très rare, des accusations mensongères, il ne faut jamais l'oublier. Mais,
elles sont très, très minoritaires.
Elles sont extrêmement minoritaires. Et il faut surtout d'abord avoir de la confiance dans la parole des victimes, hein, bien sûr, ne pas immédiatement, comme on l'a fait pendant si longtemps, les mettre en doute leur parole. Mais en même temps, savoir que la question de la preuve reste une question importante. Il faut être très attentif aux procédures démocratiques sur tout ça, quoi.
Et puis c'est surtout aussi l'image que beaucoup se font, malheureusement, de l'agression sexuelle, voire du viol, où tout le monde pense que c'est... tout le monde, la majorité pense que c'est dans une rue sombre, par un inconnu, dans un quartier... on va dire qui craint, entre guillemets, alors qu'en fait, pas du tout, ça peut être des violences...
La majorité des violences sont commises par une personne connue,
proche famille,
au sein de la famille.
Alors dans mon livre, moi aussi, La nouvelle civilité sexuelle, je raconte l'agression que moi j'ai subie quand j'avais 8 ans et qui était justement une agression sexuelle sur une petite route. J'habitais à Aix-en-Provence et je rentrais pour une des premières fois en vélo de ma séance de gym du jeudi. À l'époque, le mercredi était le jeudi. Et donc, c'était un peu justement l'image traditionnelle de l'inconnu qui vous fait peur, qui vous agresse. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, le sentiment qu'on risque sa vie vient s'associer à la question sexuelle elle-même. Mais c'est vrai que, je le dis, ça n'est pas fréquent, ça. Ce qui est fréquent, c'est l'agression par une personne connue, que ça soit un membre de la famille ou un proche, un ami, un collègue... etc. Et c'est ça que MeToo a montré, d'ailleurs. C'est que dans ces cas-là, le silence de la victime était dû certainement à ce phénomène de la honte, qu'on peut partager quelles qu'étaient les modalités et sur lequel, justement, il s'agit de faire évoluer les choses. Ça ne soit plus la victime qui ait honte, mais le coupable. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi, pour beaucoup de victimes, l'idée qu'elles allaient déclencher un cataclysme familial ou voilà. En plus, si elles osaient parler. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les livres de Vanessa Springora, Le consentement, sur la pédocriminalité qu'elle a subie de la part de Gabriel Masneff quand elle avait 14 ans et lui 50 quand même, qui a duré assez longtemps. Puis après, le livre de Camille Kouchner sur l'inceste qu'a subi son frère jumeau de la part d'un intellectuel connu. Ces livres ont beaucoup fait avancer. Ils ont été très courageux parce qu'ils montraient des cas où, contrairement à ce que moi j'ai vécu, la victime ne se met pas à crier, etc. Elle est plutôt dans la sidération. Et le coupable peut toujours essayer de se raconter qu'elle était consentante. Et justement, c'est donc ça un très grand apport du MeToo contemporain. C'est de faire comprendre qu'il y a des cas où le consentement ne peut pas être un consentement parce que même si on se tait, c'est qu'on n'est pas libre de consentir ou pas. Ça, c'est vraiment... C'était assez courageux de le faire, je trouve, et maintenant, on comprend beaucoup mieux que ça n'était le cas avant.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au mouvement MeToo, à part le fait qu'il disparaisse parce qu'il n'y a plus aucune agression, pour les années à venir? Est-ce qu'il y a en interne, au sein du mouvement MeToo, des failles qui pourraient être ou qui doivent être corrigées pour lui permettre de continuer à grandir et à porter ses revendications auprès de celles et ceux qui...
Comme toujours dans les mouvements, comme dans un mouvement social aussi important que MeToo, pour moi MeToo c'est vraiment un mouvement capital, vraiment de ce première décennie du 21e siècle. C'est vraiment contribuer à une nouvelle une nouvelle règle du jeu, du jeu de la séduction sexuelle, en fait. Donc, forcément, dans un mouvement comme celui-là, il y a des divisions. D'ailleurs, dans le mouvement des féministes des années 70, aussi, il y avait des divisions. C'est seulement après qu'on a l'impression qu'on était toutes dans l'unanimité, mais pas du tout. Il y avait forcément... Donc là, dans le mouvement MeToo, il y a des divisions. Elles ne me choquent pas du tout, c'est normal. Par exemple, une tendance quelquefois à dire on considérera qu'une victime a forcément... dit forcément la vérité, que c'est aussi simple que ça, c'est pas forcément. Moi, ce que me paraît le plus important pour l'avenir, pour répondre à votre question, c'est que MeToo ne fait pas que dénoncer. MeToo cherche des solutions. C'est ça que je trouve, il y a quelque chose de très créateur. Alors, un exemple, Gisèle Halimi, il y a eu en 78 un procès extrêmement important dans l'histoire du féminisme qu'on appelle le procès d'Aix. Donc, on peut rappeler en deux mots, c'est un couple de femmes qui étaient allées camper dans les calanques de Marseille et elles ont été apostrophées, on va dire, par un garçon qui a commencé à vouloir les draguer, etc. Elles ont répondu, l'envoyer balader. Hein, voilà. Et donc, un garçon qu'on envoie balader, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que les filles sont des boudins. C'est comme ça qu'il en a parlé au procureur. Ces deux boudins, allaient voir ce qu'elles allaient voir. Et donc, expédition punitive la nuit. Il amène deux copains à lui et il viole ces deux femmes pendant des heures dans une calanque de Marseille. Donc ça a été une affaire très compliquée parce qu'au début, ça a été correctionnalisé. Finalement, Gisèle Halimi a obtenu que ça soit à la cour d'assises à Aix et elle en a fait le procès du viol pour faire comprendre quelle était la question centrale du viol. Je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais vous dire.
MeToo construit des choses.
Et à ce moment-là, elle disait déjà, le cœur du problème, c'est le consentement. On peut lire sa plaidoirie, elle est publiée. Elle disait, le cœur du problème, c'est le consentement. Parce que dès lors que l'immense majorité des rapports sexuels se font sans témoin, 90-95% sont sans témoin, il suffit qu'ils disent, elle était consentante, ou il était consentant, et voilà que les choses se retournent et que c'est à la victime de justifier qu'elle n'était pas consentante, c'est elle qu'on va montrer du doigt, etc. Et donc, moi j'appartiens à une génération qui pensait, y a une fatalité là. Si on est pour la présomption d'innocence, on ne va pas se mettre à accuser sans preuve. Dans les cas des crimes sans témoin, où il dit qu'elle était consentante, il y a une fatalité qu'on ne pourra pas punir. Donc, que fait MeToo par rapport à ça? MeToo lève l'idée de la fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Par exemple, il n'y a pas de fatalité à ce que les victimes aient tellement honte qu'elles ne puissent pas parler, si elles sont bien accompagnées, etc. Et je l'ai prouvé moi-même de passer de la honte d'avoir été agressée. Je n'ai jamais pu dire à mes parents que j'avais été victime d'une agression sexuelle. De toute ma vie, je n'ai jamais pu leur dire. Les petites filles qui sont agressées se sentent salies et n'osent pas le dire. Et aujourd'hui, je pense que grâce au mouvement MeToo, on peut accompagner, voir les choses autrement. Mais une autre chose, par exemple, très importante, la solidarité des récits. Je trouve que parmi les apports de MeToo très importants, il y a l'idée que, effectivement, si c'est une parole contre parole, c'est très difficile. Mais si vous qui avez été victime de quelqu'un, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a une autre personne qui parle et encore une autre, exactement comme dans l'affaire PPDA, qui est un peu notre affaire Weinstein à nous. Il y a eu pour Hollywood, il y a eu l'affaire Weinstein et pour nous, il y a PPDA. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui parle. Il y en a deux, il y en a 10, il y en a 30, il y en a 40, il y en a 60, etc. Alors, à ce moment-là, il y a quelque chose qui change du point de vue de la preuve elle-même. Quand vous les avez vus témoigner, par exemple, sur Mediapart ou sur Libération, c'est impossible que ça soit faux. Donc là, MeToo invente des choses. On passe de la traditionnelle rivalité entre les femmes, par exemple, où si une était victime, les autres disaient « elle était bien contente, elle a eu une promotion canapé », enfin bon, des choses atroces comme ça, à l'idée de solidarité. Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on continue à chercher en positif des solutions, justement, à des choses qui paraissent sans issue pour le moment. Et il y a plein de sujets de ce point de vue-là. Par exemple, s'il y a eu prescription, est-ce que pour autant on ne peut rien faire? Est-ce que pour autant on ne peut rien faire? On aurait l'impression que c'est le cas. Et pourtant, en ce moment même, dans l'Église, il y a des commissions de réparation qui se mettent en place alors même qu'il y a prescription, qu'il n'y a plus d'action judiciaire possible, mais où l'institution met en place des lieux où on écoute les victimes. Bon, pourquoi est-ce que les entreprises ne feraient pas ça aussi bon, enfin, on peut voilà. Il y a eu récemment, je crois, une réparation civile qui a été donnée. Il y avait un article dans Le Monde la semaine dernière, justement pour un viol qui avait été reconnu par le coupable, mais il était prescrit. Il était reconnu. Il y a eu une réparation civile. Donc, je pense que c'est ça qui est bien, c'est que dans l'avenir, on ne se contente pas de répéter qu'il y a seulement un viol sur 100 qui est puni, mais que, évidemment, il faut que la police, la justice évolue. Il faut qu'elles aient des moyens. Et ça, c'est tout ça, on le sait. Mais il faut aussi qu'on invente tout un ensemble de choses nouvelles pour prendre, pour prévenir les choses, et puis quand elles sont là, pour les punir, reconnaître les victimes sans les enfermer dans un statut de victime à vie. Il y a ça aussi. Quelquefois, dans les problèmes de MeToo, c'est qu'on se dit, mais attendez, si pour montrer que c'est grave, il faut que je le montre par, en exhibant la gravité psychologique, alors je n'en sortirai jamais. Donc il faut que la société reconnaisse. Si la société reconnaît l'injustice qui est faite, elle permettra aux victimes d'être dans la... Au contraire, de surmonter. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très important aussi. Et on n'a pas encore assez travaillé ça en France par rapport à d'autres pays.
Merci beaucoup, Irène Théry. On va poursuivre cette conversation ce soir avec le public des cinémas studios qui va venir vous rencontrer et qui va aussi certainement acheter votre livre et vous le faire dédicacer, puisqu'il y aura un temps de dédicace aussi après la projection. Merci encore d'avoir pris le temps de venir nous parler sur le plateau mobile de Radio Béton, Radio Campus.
Merci
Radio
à vous, merci à vous. Ouais.
Alors, ça vous a plu? Bon, en tout cas, j'espère que, comme moi, vous avez bu les paroles de Madame Théry. Et d'ailleurs, ce sera sur ces paroles de sagesse que l'on va se dire au revoir. Non, 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 ne soyez pas si tristes, car on se retrouvera demain pour une émission haute en couleurs. Et donc sur ce, je vous dis à demain.